Chapitre 8. L'aubépine du cimetière des innocents, les confidences. Rentrée chez elle, Marguerite chercha vainement à deviner le mot que Catherine de Médicis avait dit tout bas à Charles IX et qui avait arrêté court le terrible conseil de vie et de mort qui se tenait en ce moment. Une partie de la matinée fut employée par elle à soigner la mole, l'autre à chercher l'énigme que son esprit se refusait à comprendre. Le roi de Navarre était resté prisonnier au Louvre, les Huguenots étaient plus que jamais poursuivis, à la nuit terrible avait succédé un jour de massacre plus hideux encore. Ce n'était plus le tocsin que les cloches sonnaient, c'était des tédéum, et les accents de ce bronze joyeux retentissant au milieu du meurtre et des incendies étaient peut-être plus tristes à la lumière du soleil que ne l'avait été pendant l'obscurité le glas de la nuit précédente. Ce n'était pas le tout. Une chose étrange était arrivée. Une aubépine, qui avait fleuri au printemps et qui, comme d'habitude, avait perdu son odorante parure au mois de juin, venait de refleurir pendant la nuit. Et les catholiques, qui voyaient dans cet événement un miracle, et qui, par la popularisation de ce miracle, faisaient Dieu leur complice, allaient en procession, croix et bannière en tête, au cimetière des saints innocents, où cette aubépine fleurissait. Cette espèce d'assentiment donné par le ciel au massacre qui s'exécutait avait redoublé l'ardeur des assassins. Et tandis que la ville continuait à offrir dans chaque rue, dans chaque carrefour, sur chaque place, une scène de désolation, le Louvre avait déjà servi de tombeau commun à tous les protestants qui s'y étaient retrouvés enfermés au moment du signal. Le roi de Navarre, le prince de Condé et la Mole y étaient seuls demeurés vivants. Rassurée sur la mole dont les plaies, comme elle l'avait dit la veille, étaient dangereuses mais non mortelles, Marguerite n'était donc plus préoccupée que d'une chose, sauver la vie de son mari, qui continuait d'être menacé. Sans doute le premier sentiment qui s'était emparé de l'épouse était un sentiment de loyale pitié pour un homme auquel elle venait, comme l'avait dit lui-même le Béarnais, de jurer, sinon amour, du moins alliance. Mais à la suite de ce sentiment, un autre, moins pur, avait pénétré dans le cœur de la reine. Marguerite était ambitieuse. Marguerite avait vu presque une certitude de royauté dans son mariage avec Henri de Bourbon. La Navarre, tiraillée d'un côté par les rois de France, de l'autre par les rois d'Espagne, qui, lambeau à lambeau, avait fini par emporter la moitié de son territoire, pouvait, si Henri de Bourbon réalisait les espérances de courage qu'il avait données dans les rares occasions qu'il avait eues de tirer l'épée, devenir un royaume réel, avec les Huguenots de France pour sujet. Grâce à son esprit fin et si élevé, Marguerite avait entrevu et calculé tout cela. En perdant Henri, ce n'était donc pas seulement un mari qu'elle perdait, c'était un royaume. Elle en était au plus intime de sa réflexion lorsqu'elle entendit frapper à la porte du corridor secret. Elle tressaillit car trois personnes seulement venaient par cette porte, le roi, la reine-mère et le duc d'Alençon. Elle entr'ouvrit la porte du cabinet, recommanda du doigt le silence à Gionne et à la Mole et alla ouvrir aux visiteurs. Ce visiteur était le duc d'Alençon. Le jeune homme avait disparu depuis la veille. Un instant, Marguerite avait eu l'idée de réclamer son intercession en faveur du roi de Navarre, mais une idée terrible l'avait arrêtée. Le mariage s'était fait contre son gré. François détestait Henri et n'avait conservé la neutralité en faveur du Béarnais que parce qu'il était convaincu que Henri et sa femme étaient restés étrangers l'un à l'autre. Une marque d'intérêt donnée par Marguerite à son époux pouvait, en conséquence, au lieu de l'écarter, rapprocher de sa poitrine un des trois poignards qui le menaçaient. Marguerite frissonna donc en apercevant le jeune prince plus qu'elle n'eût frissonné en apercevant le roi Charles IX ou la reine-mère elle-même. On n'eût point dit d'ailleurs en le voyant qu'il se passa quelque chose d'insolite par la ville ni le Louvre. Il était vêtu avec son élégance ordinaire. Son habit et son linge exhalaient ces parfums que méprisait Charles IX, mais dont le duc d'Anjou et lui faisaient un si continuel usage. Seulement un œil exercé, comme l'était celui de Marguerite, pouvait remarquer que, malgré sa pâleur plus grande que d'habitude, et malgré le léger tremblement qui agitait l'extrémité de ses mains, aussi belles et aussi soignées que des mains de femme, il renfermait au fond de son cœur un sentiment joyeux. Son entrée fut ce qu'elle avait l'habitude d'être. Il s'approcha de sa sœur pour l'embrasser, mais au lieu de lui tendre ses joues, comme elle l'eût fait au roi Charles ou au duc d'Anjou, Marguerite s'inclina et lui offrit le front. Le duc d'Alençon poussa un soupir et posa ses lèvres blêmissantes sur ce front que lui présentait Marguerite. Alors, s'asseyant, il se mit à raconter à sa sœur les nouvelles sanglantes de la nuit. La mort lente et terrible de l'amiral, la mort instantanée de Tilligny qui, percé d'une balle, rendit à l'instant le dernier soupir, il s'arrêta, s'apesantit, se complut sur les détails sanglants de cette nuit avec cet amour du sang particulier à lui et à ses deux frères. Marguerite le laissa dire. Enfin, ayant tout dit, il se tut. « Ce n'est pas pour me faire ce récit seulement que vous êtes venu me rendre visite, n'est-ce pas, mon frère ?» demanda Marguerite. Le duc d'Alençon sourit. « Vous avez encore autre chose à me dire ?»« Non, répondit le duc, j'attends. »« Et qu'attendez-vous ? » ?»« Ne m'avez-vous pas dit, chère Marguerite, bien-aimée, reprit le duc en rapprochant son fauteuil de celui de sa sœur, que ce mariage avec le roi de Navarre se faisait contre votre gré ?» Oui, sans doute, je ne connaissais point le prince de Béarn lorsqu'on me l'a proposé pour époux. Et depuis vous le connaissez, ne m'avez-vous pas affirmé que vous n'éprouviez aucun amour pour lui? Je vous l'ai dit, il est vrai. Votre opinion n'y était-elle pas que ce mariage devait faire votre malheur? Mon cher François, dit Marguerite, quand un mariage n'est pas la suprême félicité, c'est presque toujours la suprême douleur. « Ah, eh bien, ma chère Marguerite, comme je vous le disais, j'attends. »« Mais qu'attendez-vous, dites ? » ?»« Mais que vous me témoigniez votre joie. »« Et de quoi donc ai-je à me réjouir ? » ?»« Mais de cette occasion inattendue qui se présente de reprendre votre liberté. »« Ma liberté, reprit Marguerite, qui voulait forcer le prince à aller jusqu'au bout de sa pensée. »« Eh, sans doute votre liberté. Vous allez être séparé du roi de Navarre. » « Séparé ?» dit Marguerite en fixant ses yeux sur le jeune prince. Le duc d'Alençon essaya de soutenir le regard de sa sœur, mais bientôt ses yeux s'écartèrent d'elle avec embarras. « Séparé ?» répéta Marguerite. « Voyons cela, mon frère, car je suis bien aise que vous me mettiez à même d'approfondir la question. Et comment compte-t-on nous séparer ?»« Mais, murmura le duc, Henri est huguenot. » Ah, « sans doute, mais il n'avait pas fait mystère de sa religion, et on savait cela quand on nous a mariés. » « Oui, mais depuis votre mariage, ma sœur, dit le duc, laissant malgré lui un rayon de joie illuminer son visage, qu'a fait Henri ? Ben, vous le savez mieux que personne, François, puisqu'il a passé ses journées presque toujours en votre compagnie, tantôt à la chasse, tantôt au mail, tantôt à la paume. »« Oui, ses journées, sans doute, reprit le duc, ses journées, mais ses nuits. » Marguerite se tut, et ce fut à son tour de baisser les yeux. « Ses nuits ? Continua le duc d'Alençon, ses nuits ? » « Eh bien, demanda Marguerite, sentant qu'il fallait bien répondre quelque chose. « Eh bien, il les a passés chez madame de Sauve. Ah, »« Comment le savez-vous ? » s'écria Marguerite. Hein? « Je le sais, parce que j'avais intérêt à le savoir, » répondit le jeune homme en pâlissant et en déchiquetant la broderie de ses manches. Marguerite commençait à comprendre ce que Catherine avait dit tout bas à Charles IX, mais elle fit semblant de demeurer dans son ignorance. « Et pourquoi me dites-vous cela, mon frère ? » répondit-elle avec un air de mélancolie parfaitement joué. « Est-ce pour me rappeler que personne ici ne m'aime et ne tient à moi, pas plus ceux que la nature m'a donné pour protecteur que celui que l'Église m'a donné pour époux ? Ah, vous êtes injuste, dit vivement le duc d'Alençon, en rapprochant encore son fauteuil de celui de sa sœur. « Je vous aime et vous protège, moi !»« Mon frère, dit Marguerite en le regardant fixement, vous avez quelque chose à me dire de la part de la reine-mère. » « Moi, mais vous vous trompez, ma sœur, je vous jure, qu'est-ce qui peut vous faire croire cela ?»« Ce qui peut me le faire croire, c'est que vous rompez l'amitié qui vous attachait à mon mari, c'est que vous abandonnez la cause du roi de Navarre. »« La cause du roi de Navarre ?» reprit le duc d'Alençon tout interdit. « Oui, sans doute. Tenez, François, parlons franc. Vous en êtes convenu 20 fois, vous ne pouvez vous élever et même vous soutenir que l'un par l'autre. Cette alliance est devenue impossible, ma sœur, » interrompit le duc d'Alençon. « Et pourquoi cela ?»« Parce que le roi a des desseins sur votre mari. Pardon, en disant votre mari, je me trompe, c'est sur Henri de Navarre que je voulais dire. Notre mère a deviné tout. » Je m'alliais aux huguenots parce que je croyais les huguenots en faveur, mais voilà qu'on tue les huguenots et que dans 8 jours, il n'en restera pas 50 dans tout le royaume. Je tendais la main au roi de Navarre parce qu'il était votre mari. Mais voilà qu'il n'est plus votre mari. Qu'avez-vous à dire à cela, vous qui êtes non seulement la plus belle femme de France, mais encore la plus forte tête du royaume ? J'ai à dire, reprit Marguerite, que je connais notre frère Charles. Je l'ai vu hier dans un des accès de frénésie dont chacun abrège sa vie de 10 ans. J'ai à dire que ces accès se renouvellent, par malheur, bien souvent maintenant, ce qui fait que, selon toute probabilité, notre frère Charles n'a pas longtemps à vivre. J'ai à dire enfin que le roi de Pologne vient de mourir et qu'il est fort question d'élire à sa place un prince de la maison de France. J'ai à dire enfin que, lorsque les circonstances se présentent ainsi, ce n'est point le moment d'abandonner les alliés qui, au moment du combat, peuvent nous soutenir avec le concours d'un peuple et l'appui d'un royaume. « Et vous, s'écria le duc, ne me faites-vous pas une trahison bien plus grande de préférer un étranger à votre frère ? Mais expliquez-vous, François, en quoi et comment vous ai-je trahi ? Vous avez demandé hier au roi l'avis du roi de Navarre. « Eh bien, demanda Marguerite avec une feinte naïveté. Le duc se leva précipitamment, fit 2 ou 3 fois le tour de la chambre d'un air égaré, puis revint prendre la main de Marguerite. Cette main était raide et glacée. « Adieu, ma sœur, dit-il, vous n'avez pas voulu me comprendre. Ne vous en prenez donc qu'à vous des malheurs qui pourront vous arriver. » Marguerite pâlit, mais demeura immobile à sa place. Elle vit sortir le duc d'Alençon sans faire un signe pour le rappeler, mais à peine l'avait-elle perdu de vue dans le corridor qu'il revint sur ses pas. « Écoutez, Marguerite, dit-il, j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que demain, à pareille heure, le roi de Navarre sera mort. » Marguerite poussa un cri, car cette idée qu'elle était l'instrument d'un assassinat lui causait une épouvante qu'elle ne pouvait surmonter. « Et vous n'empêcherez pas cette mort, dit-elle, vous ne sauverez pas votre meilleur et votre plus fidèle allié ?» « Depuis hier, mon allié n'est plus le roi de Navarre. »« Et qui est-ce donc alors ?»« C'est Monsieur de Guise. En détruisant les huguenots, on a fait Monsieur de Guise roi des catholiques. »« Et c'est le fils de Henri II qui reconnaît pour son roi un duc de Lorraine. »« Ah, vous êtes dans un mauvais jour, Marguerite, et vous ne comprenez rien. » »« Mais, demanda-t-elle après un moment de silence, vous n'êtes donc pas jaloux de Monsieur de Guise comme vous l'êtes de roi de Navarre ?» « Ce qui est fait, dit duc d'Alençon d'une voix sourde, et si j'ai eu à être jaloux du duc de Guise, eh bien, je l'ai été. » Il n'y a qu'une seule chose qui puisse empêcher ce plan de réussir. Laquelle ? C'est que je n'aime plus le duc de Guise. « Et qui donc aimez-vous alors ? Personne. » Le duc d'Alençon regarda Marguerite avec l'étonnement d'un homme qui, à son tour, ne comprend plus, et sortit de l'appartement en poussant un soupir et en pressant de sa main glacée son front prêt à se fendre. Marguerite demeura seule et pensive. La situation commençait à se dessiner claire et précise à ses yeux. Le roi avait laissé faire la Saint-Barthélemy, la reine Catherine et le duc de Guise l'avaient faite. Le duc de Guise et le duc d'Alençon allaient se réunir pour en tirer le meilleur parti possible. La mort du roi de Navarre était une conséquence naturelle de cette grande catastrophe. Le roi de Navarre mort, on s'emparait de son royaume. Marguerite restait donc veuve, sans trône, sans puissance, et n'ayant d'autre perspective qu'un cloître où elle n'aurait même pas la triste douleur de pleurer un époux qui n'avait jamais été son mari. Elle en était là lorsque la reine Catherine lui fut demandée si elle ne voulait pas venir faire avec toute la cour un pèlerinage. Le premier mouvement de Marguerite fut de refuser de faire partie de cette cavalcade, mais la pensée que cette sortie lui fournirait peut-être l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur le sort du roi de Navarre la décida. Elle fit donc répondre que si on voulait lui tenir un cheval prêt, elle accompagnerait volontiers leur majesté. 5 minutes après, un page vint lui annoncer que si elle voulait descendre, le cortège allait se mettre en marche. Marguerite fit de la main à Gillonne un signe pour lui recommander le blessé et descendit. Le roi, la reine-mère, Tavannes et les principaux catholiques étaient déjà à cheval. Marguerite jeta un coup d'œil rapide sur ce groupe, qui se composait d'une 20aine de personnes à peu près. Le roi de Navarre n'y était point. Mais Madame de Sauve y était. Elle échangea un regard avec elle, et Marguerite comprit que la maîtresse de son mari avait quelque chose à lui dire. On se mit en route en gagnant la rue Saint-Honoré par la rue de l'Astrus. À la vue du roi, de la reine Catherine et des principaux catholiques, le peuple s'était amassé, suivant le cortège comme un flot qui monte, criant « Vive le roi! Vive la messe! Mort aux huguenots !» Ces cris étaient accompagnés de brandissements d'épées rougies et d'arquebuses fumantes qui indiquaient la part que chacun avait prise au sinistre événement qui venait de s'accomplir. En arrivant à la hauteur de la rue de Prouvelle, on rencontra des hommes qui traînaient un cadavre sans tête. C'était celui de l'amiral. Ces hommes allaient le pendre par les pieds à Montfaucon. On entra dans le cimetière des Saints-Innocents par la porte qui s'ouvrait en face de la rue des Chapes, aujourd'hui celle des Déchargeurs. Le clergé, prévenu de la visite du roi et de celle de la reine-mère, attendait leur majesté pour les haranguer. Madame de Sauve profita du moment où Catherine écoutait un discours qu'on lui faisait pour s'approcher de la reine de Navarre et lui demander la permission de lui baiser la main. Marguerite étendit le bras vers elle, Madame de Sauve approcha ses lèvres de la main de la reine et, en la lui baisant, lui glissa un petit papier roulé dans la manche. Rapide et si dissimulée qu'eût été la retraite de Madame de Sauve, Catherine s'en était aperçue. Elle se retourna au moment où sa dame d'honneur baisait la main de la reine. Les deux femmes virent ce regard qui pénétrait jusqu'à elles comme un éclair, mais toutes deux restèrent impassibles. Seulement, Madame de Sauve s'éloigna de Marguerite et alla reprendre sa place près de Catherine. Lorsqu'elle eut répondu au discours qui venait de lui être adressé, Catherine fit du doigt et en souriant signe à la reine de Navarre de s'approcher d'elle. Marguerite obéit. « Eh, ma fille, dit la reine-mère dans son patois italien, vous avez donc de grandes amitiés avec Madame de Sauve ?» Marguerite sourit en donnant à son beau visage l'expression la plus amène qu'elle put trouver. « Oui, ma mère, répondit-elle, le serpent est venu me mordre la main. »« Ah, ah, dit Catherine en souriant, vous êtes jalouse, je vois. » »« Vous vous trompez, madame, répondit Marguerite, je ne suis pas plus jalouse du roi de Navarre que le roi de Navarre n'est amoureux de moi. Seulement je sais distinguer mes amis de mes ennemis. J'aime qui m'aime et déteste qui me hait. Sans cela, madame, serais-je votre fille ?» Catherine sourit de manière à faire comprendre à Marguerite que si elle avait eu quelques soupçons, ce soupçon était évanoui. D'ailleurs, en ce moment, les nouveaux pèlerins attirèrent l'attention de l'auguste assemblée. Le duc de Guise arrivait, escorté d'une troupe de gentilshommes, tout échauffés encore du carnage récent. Ils escortaient une litière richement tapissée qui s'arrêta en face du roi. « La duchesse de Nevers !» s'écria Charles IX. « Ça, voyons, qu'elle vienne recevoir nos compliments, cette belle et rude catholique. Que m'a-t-on dit, ma cousine, que de votre propre fenêtre vous avez giboyé aux huguenots et que vous en avez tué un d'un coup de pierre ?» La duchesse de Nevers rougit extrêmement. « Sûr, dit-elle à voix basse, en venant s'agenouiller devant le roi, c'est au contraire un catholique blessé que j'ai eu le bonheur de recueillir. « Bien, bien, ma cousine, il y a deux façons de me servir, l'une en exterminant mes ennemis, l'autre en secourant mes amis. On fait ce qu'on peut, et je suis sûr que, si vous eussiez plus davantage, vous l'eussiez fait. » Pendant ce temps, le peuple qui voyait la bonne harmonie qui régnait entre la maison de Lorraine et Charles IX criait à tue-tête « Vive le roi! Vive le duc de Guise! Vive la messe !»« Revenez-nous au Louvre avec nous, Henriette, dit la reine-mère à la belle duchesse. » Marguerite toucha du coude son amie qui comprit aussitôt ce signe et qui répondit « Non pas, madame, à moins que votre majesté ne me l'ordonne, car j'ai affaire en ville avec sa majesté la reine de Navarre. » « Et qu'allez-vous faire ensemble ?» demanda Catherine. « Voir des livres grecs très rares et très curieux qu'on a trouvés chez un vieux pasteur protestant et qu'on a transporté à la tour Saint-Jacques-la-Boucherie, » répondit Marguerite. « Vous feriez mieux d'aller voir jeter les derniers huguenots du haut du pont des Meuniers dans la Seine, » dit Charles IX. « C'est la place des bons Français. »« Nous irons, s'il plaît à votre majesté, » répondit la duchesse de Nevers. Catherine jeta un regard de défiance sur les deux jeunes femmes. Marguerite aux aguets l'intercepta, et se tournant et retournant aussitôt d'un air fort préoccupé, elle regarda avec inquiétude autour d'elle. Cette inquiétude, feinte ou réelle, n'échappa point à Catherine. « Que cherchez-vous ? » Je cherche, je ne vois plus, dit-elle. « Que cherchez-vous ? Que ne voyez-vous plus ? La sauve, dit Marguerite, serait-elle retournée au Louvre?
Je te disais que tu étais jalouse, dit Catherine à l'oreille de sa fille.
Oh, bestia! Allons, allons, Henriette, continua-t-elle en haussant les épaules. Emmenez la reine de Navarre. Marguerite feignit encore de regarder autour d'elle, puis, se penchant à son tour à l'oreille de son amie, « Emmène-moi vite, lui dit-elle, j'ai des choses de la plus haute importance à te dire. » La duchesse fit une révérence à Charles IX et à Catherine, puis, s'inclinant devant la reine de Navarre, « Votre Majesté daignera-t-elle monter dans ma litière, dit-elle ? Volontiers, seulement vous serez obligé de me faire reconduire au Louvre. Ma litière, comme mes gens, comme moi-même, répondit la duchesse, sont aux ordres de votre Majesté. » La reine Marguerite monta dans la litière, et sur un signe qu'elle lui fit, la duchesse de Nevers monta à son tour et prit respectueusement place sur le devant. Catherine et ses gentilshommes retournèrent au Louvre en suivant le même chemin qu'ils avaient pris pour venir. Seulement, pendant toute la route, on vit la reine-mère parler sans relâche à l'oreille du roi, en lui désignant plusieurs fois Madame de Sauve. Quant à Marguerite, une fois qu'elle eut senti la litière se mettre en mouvement et qu'elle n'eut plus à craindre la perçante investigation de Catherine, elle tira vivement de sa manche le billet de Madame de Sauve et lut les mots suivants. J'ai reçu l'ordre de faire remettre ce soir au roi de Navarre deux clés. L'une est celle de la chambre dans laquelle il est enfermé, l'autre est celle de la mienne. Une fois qu'il sera entré chez moi, il m'est enjoint de l'y garder jusqu'à 6 heures du matin. Que votre majesté réfléchisse, que votre majesté décide, que votre majesté ne compte ma vie pour rien. « Ah, il n'y a plus de doute, murmura Marguerite, et la pauvre femme est l'instrument dont on veut se servir pour nous perdre tous. Mais nous verrons si de la reine Margot, comme dit mon frère Charles, en fait si facilement une religieuse. » « De qui donc est cette lettre ?» demanda la duchesse de Nevers en montrant le papier que Marguerite venait de lire et de relire avec une si grande attention. « Ah, duchesse, j'ai bien des choses à te dire, » répondit Marguerite en déchirant le billet en mille et mille morceaux. « Et d'abord, où allons-nous ? » demanda Marguerite. « J'ai pris la liberté de conduire votre majesté. »« Oh, d'abord et avant toute chose, ma majesté te prie d'oublier sa majesté. »« Tu me conduisais donc ? » ?»« À l'hôtel de Guise, à moins que vous n'en décidiez autrement. » »« Ah, non pas, non pas, Henriette, allons chez toi. Le duc de Guise n'y est pas, ton mari n'y est pas. » « Oh non !» s'écria la duchesse avec une joie qui fit étinceler ses beaux yeux couleur d'émeraude. « Non, ni mon beau-frère, ni mon mari, ni personne. Je suis libre, libre comme l'air, comme l'oiseau, comme le nuage. Libre, ma reine, entendez-vous ? Comprenez-vous ce qu'il y a de bonheur dans ce mot ? Libre ! Je vais, je viens, je commande. Ah, pauvre reine, vous n'êtes pas libre, vous aussi, vous soupirez. » Ah, tu vas, tu viens, tu commentes, est-ce donc tout, et ta liberté ne sert-elle qu'à cela? Voyons, tu es bien joyeuse pour n'être que libre. Votre majesté m'a promis d'entamer les confidences. Ah, encore ma majesté! Voyons, nous nous fâcherons, Henriette, as-tu donc oublié nos conventions? Non, votre respectueuse servante devant le monde, ta folle confidente dans le tête-à-tête. N'est-ce pas cela, madame, n'est-ce pas cela, Marguerite? Bien, ma duchesse, c'est cela. Et pour renouveler le pacte, embrasse-moi. Et les deux charmantes têtes, l'une pâle et voilée de mélancolie, l'autre rosée, blonde et rieuse, se rapprochèrent gracieusement et unirent leurs lèvres comme elles avaient uni leurs pensées. « Donc, il y a du nouveau ?» demanda la duchesse en fixant sur Marguerite un regard avide et curieux. « Ah, tout n'est-il pas nouveau depuis 2 jours ?»« Oh, je parle d'amour et non de politique, moi. Quand nous aurons l'âge de Dame Catherine, ta mère, nous en ferons de la politique. Mais nous avons 20 ans, ma belle reine, parlons d'autre chose. Voyons, serais-tu mariée pour tout de bon ?»« À qui ?» dit Marguerite en riant. « Ah, tu me rassures en vérité. » »« Eh bien, Henriette, ce qui te rassure m'épouvante. Duchesse, il faut que je sois mariée. »« Et quand cela ?»« Demain. » »« Ah ben, vraiment, pauvre ami, c'est nécessaire ?»« Absolument. » « Ah, mordi, comme dit quelqu'un de ma connaissance, voilà qui est fort triste. »« Tu connais quelqu'un qui dit « mordi » ?» demanda en riant Marguerite. « Oui. » »« Et quel est ce quelqu'un ?»« Ah, tu m'interroges toujours quand c'est à toi de parler. Achève et je commencerai. » »« En 2 mots, voici. Le roi de Navarre est amoureux et ne veut pas de moi. Je ne suis pas amoureuse, mais je ne veux pas de lui. » Cependant, il faudrait que nous changeassions d'idée l'un et l'autre, ou que nous eussions l'air d'en changer d'ici demain. Eh bien, change-toi, et tu peux être sûr qu'il changera, lui.
Justement, voilà l'impossible, car je suis moins disposée à changer que jamais. À l'égard de ton mari seulement, j'espère. Henriette, j'ai un scrupule.
Un scrupule de quoi ?
De religion. Fais-tu une différence entre les huguenots et les catholiques ?
En politique ?
Oui,
ah, sans doute.
Mais en amour ? Ma chère amie, nous autres femmes, nous sommes tellement païennes qu'en fait de secte, nous les admettons toutes, qu'en fait de Dieu, nous en reconnaissons plusieurs.
En un seul, n'est-ce pas ?
Oui, dit la duchesse avec un regard étincelant de paganisme. Oui, celui qui s'appelle Eros, Cupido, Amor. Oui, celui qui a un carquois, un bandoué des ailes, mordi. Vive la dévotion.
Cependant, tu as une manière de prier qui est exclusive. Tu jettes des pierres sous la tête des huguenots.
Ah, faisons bien et laissons dire. Ah, Marguerite, comme les meilleures idées, comme les plus belles actions se travestissent en passant par la bouche du vulgaire.
Le vulgaire, mais c'est mon frère Charles qui te félicitait, ce me semble.
Oh, ton frère Charles, Marguerite, est un grand chasseur qui sonne du cor toute la journée, ce qui le rend fort maigre. Je récuse donc jusqu'à ses compliments.
D'ailleurs, je lui ai répondu à ton frère Charles. N'as-tu pas entendu ma réponse ?
Non, tu parlais si bas.
Tant mieux, j'aurai plus de nouveau à t'apprendre.
Ça, la fin de ta réplique, Marguerite ?
C'est que...
Eh bien ?
C'est que, dit la reine en riant, si la pierre dont parlait mon frère Charles était historique, je m'abstiendrais.
Bon, s'écria Henriette, tu as choisi un huguenot. Eh bien, sois tranquille, pour rassurer ta conscience, je te promets d'en choisir un à la première occasion.
Ah, il paraît que cette fois tu as pris un catholique.
Mordi, reprit la duchesse.
Bien, bien, je comprends.
Et comment est-il, notre huguenot ?
Ah, je ne l'ai pas choisi. Ce jeune homme ne m'est rien et ne me sera probablement jamais rien.
Mais enfin, comment est-il ? Cela ne t'empêche pas de me le dire. Tu sais combien je suis curieuse.
Un pauvre jeune homme beau comme le Nisus de Benvenuto Cellini et qui s'est venu réfugier dans mon appartement.
Oh, et tu ne l'avais pas un peu convoqué ?
Oh, pauvre garçon, ne ris donc pas ainsi, Henriette, car en ce moment, il est encore entre la vie et la mort. Il est dans mon cabinet, je le cache et je veux le sauver.
Hein, il est beau, il est jeune, il est blessé, tu le caches dans ton cabinet, tu veux le sauver. Ce huguenot-là sera bien ingrat, s'il n'est pas trop reconnaissant.
Oh, s'il l'est déjà, j'en ai bien peur, plus que je ne le désirerais.
Et il t'intéresse, ce pauvre jeune homme ?
Oh, par humanité seulement.
Ah, l'humanité, ma pauvre reine, c'est toujours cette vertu-là qui nous perd, nous autres femmes.
Oui, et tu comprends, comme d'un moment à l'autre, le roi, le duc d'Alençon, ma mère, mon mari même, peuvent entrer dans mon appartement.
Ah, tu veux me prier de te garder ton petit huguenot, n'est-ce pas, tant qu'il sera malade et à condition de te le rendre quand il sera guéri.
Ah, rieuse, dit Marguerite, non, je te jure que je ne prépare pas les choses de si loin. Seulement, si tu pouvais trouver un moyen de cacher le pauvre garçon, si tu pouvais lui conserver la vie que je lui ai sauvée, eh bien, je t'avoue que je t'en serais véritablement reconnaissante.
Tu es libre à l'hôtel de Guise, tu n'as ni beau-frère, ni mari qui t'espionne ou qui te contraigne, et de plus, il y a derrière ta chambre, où personne, chère Henriette, n'a heureusement pour toi le droit d'entrer, un grand cabinet, pareil au mien.
Eh bien, prête-moi ce cabinet pour mon huguenot, et quand il sera guéri, tu lui ouvriras la cage et l'oiseau s'envolera.
Ah, il n'y a qu'une difficulté, chère reine, c'est que la cage est occupée.
Comment ? Tu as donc sauvé aussi quelqu'un, toi ?
C'est justement ce que j'ai répondu à ton frère.
Ah, je comprends, voilà pourquoi tu parlais si bas que je ne t'ai pas entendu.
Ah, écoute, Marguerite, c'est une histoire admirable, non moins belle, non moins poétique que la tienne. Après t'avoir laissé 6 de mes gardes, j'étais monté avec les 6 autres à l'hôtel de Guise, et je regardais piller et brûler une maison qui n'est séparée de l'hôtel de mon frère que par la rue des 4 fils, quand tout à coup j'entends crier des femmes et jurer des hommes. Je m'avance sur le balcon, et je vois d'abord une épée dont le feu semblait éclairer toute la scène à elle seule. J'admire cette lame furieuse, j'aime les belles choses, moi. Puis, je cherche naturellement à distinguer le bras qui la faisait mouvoir et le corps auquel ce bras appartenait. Au milieu des coups, des cris, je distingue enfin l'homme et je vois un héros, un Ajax Télamon. J'entends une voix de Stentor.
Enthousiasme, je demeure toute palpitante, tressaillant à chaque coup dont il était menacé, à chaque botte qu'il portait.
Ah, ça a été une émotion d'un quart d'heure, vois-tu, ma reine. comme je n'en avais jamais éprouvé, comme j'avais cru qu'il n'en existait pas. Aussi j'étais là, haletant, suspendu, muette, quand tout à coup, mon héros a disparu. Comment cela? Sous une pierre que lui a jetée une vieille femme. Alors, comme Cyrus, j'ai retrouvé la voix, j'ai crié « À l'aide, au secours !» Nos gardes sont venus, l'ont pris, l'ont relevé, et enfin l'ont transporté dans la chambre que tu me demandes pour t'en protéger. « Hélas, je comprends d'autant mieux cette histoire, chère Henriette, dit Marguerite, que cette histoire est presque la mienne. À cette différence, ma reine, que, servant mon roi et ma religion, je n'ai point besoin de renvoyer monsieur Hannibal de Coconas. » « Il s'appelle Hannibal de Coconas !» reprit Marguerite en éclatant de rire. « Ah, c'est un terrible nom, n'est-ce pas ?» dit Henriette. « Eh bien, celui qui le porte en est digne. Ah, quel champion mordit et que de sang il a fait couler !»« Mets ton masque, ma reine, nous voici à l'hôtel. » Et pourquoi donc mettre mon masque? Mais parce que je veux te montrer mon héros. Alors mon protégé est refusé à l'hôtel de Guise, j'en suis fâché, car c'est le dernier endroit où l'on viendrait chercher un huguenot. Oh, pas le moins du monde, je le ferai apporter ici ce soir. L'un couchera dans le coin de droite, l'autre dans le coin de gauche. Mais s'ils se reconnaissent l'un pour protestant, l'autre pour catholique, ils vont se dévorer. Oh, il n'y a pas de danger. Monsieur de Coconas a reçu dans la figure un coup qui fait qu'il n'y voit presque pas clair. Et ton huguenot a reçu dans la poitrine un coup qui fait qu'il ne peut presque pas remuer. Et puis d'ailleurs, tu lui recommanderas de garder le silence à l'endroit de la religion et tout ira à merveille. Ah, merci, dit Marguerite en serrant la main de son ami. Ici, madame, vous redevenez majesté, dit la duchesse de Nevers. Permettez-moi donc de vous faire les honneurs de l'hôtel de Guise, comme ils doivent être faits à la reine de Navarre. Et la duchesse, descendant de la litière, mit presque un genou en terre pour aider Marguerite à descendre à son tour. Puis, lui montrant de la main la porte de l'hôtel gardée par deux sentinelles, arquebuses à la main, elle suivit à quelques pas la reine, qui marcha majestueusement, précédant la duchesse, qui garda son humble attitude tant qu'elle ne put être vue. Arrivée à sa chambre, la duchesse ferma sa porte et, appelant sa camériste sicilienne des plus alertes, « Mica, lui dit-elle en italien, comment va monsieur le comte ?»« Mais de mieux en mieux, répondit celle-ci. Et que fait-il ? En ce moment, je crois, madame, qu'il prend quelque chose. » « Ah, bien, dit Marguerite, si l'appétit revient, c'est bon signe. Ah, c'est vrai, j'oubliais que tu es une fidèle Ambroise Paré. Allez, Mica, tu la renvoies ? Oui, pour qu'elle veille sur nous. » Mica sortit. « Maintenant, dit la duchesse, veux-tu entrer chez lui? Veux-tu que je le fasse venir? Ah, ni l'un ni l'autre, je voudrais le voir sans être vu. Ah, que t'importe, puisque tu as ton masque? Ah, il peut me reconnaître, à mes cheveux, à mes mains, à un bijou. Oh, comme elle est prudente depuis qu'elle est mariée, ma belle reine !» Marguerite sourit. « Eh bien, mais je ne vois qu'un moyen, continua la duchesse. Ben, lequel? Ben, c'est de regarder par le trou de la serrure. » « Soit, conduis-moi. » La duchesse prit Marguerite par la main, la conduisit à une porte sur laquelle retombait une tapisserie, s'inclina sur un genou et approcha son œil de l'ouverture que laissait la clé absente. « Ah, justement, dit-elle, il est à table et il a le visage tourné de notre côté. Viens. » Marguerite prit la place de son amie et approcha à son tour son œil du trou de la serrure. Coconas, comme l'avait dit la duchesse, était assis à une table admirablement servie et à laquelle ses blessures ne l'empêchaient pas de faire honneur. « Ah, mon Dieu !» s'écria Marguerite en se reculant. « Quoi donc ?» demanda la duchesse étonnée. « Ah, impossible ! Non ! Si ! Oh, sur mon âme, c'est lui-même ! Mais qui lui-même ? Chut ! Dit Marguerite en se relevant et en saisissant la main de la duchesse. « Celui qui voulait tuer mon huguenot, qui l'a poursuivi jusque dans ma chambre, qui l'a frappé jusque dans mes bras. Oh, Henriette, quel bonheur qu'il ne m'ait pas aperçu !»« Eh bien alors, puisque tu l'as vu à l'heure, n'est-ce pas qu'il était beau ?»« Bah, je ne sais, dit Marguerite, car je regardais celui qu'il poursuivait. »« Et celui qu'il poursuivait s'appelle ?»« Tu ne prononceras pas son nom devant lui. »« Non, non, je te le promets. » « L'Hérac de la Mole. »« Et comment le trouves-tu maintenant ?»« Monsieur de la Mole ?»« Non, monsieur de Coconas !»« Ma foi, dit Marguerite, j'avoue que je lui trouve... » Elle s'arrêta. « Non, dit la duchesse, je vois que tu lui en veux de la blessure qu'il a faite à ton huguenot. »« Mais il me semble, dit Marguerite en riant, que mon huguenot ne lui doit rien et que la balafre avec laquelle il lui a souligné l'œil... »« Ah, ils sont quittes alors et nous pouvons les raccommoder. Envoie-moi ton blessé. » « Non, pas encore, plus tard. Et quand cela ? quand tu auras prêté au tien une autre chambre.
Et laquelle donc ?
Marguerite regarda son amie qui, après un moment de silence, la regarda aussi et se mit à rire.
« Eh bien, soit, dit la duchesse, ainsi donc, alliance plus que jamais ?»«
Amitié sincère, toujours, répondit la reine.
Et le mot d'ordre, le signe de reconnaissance, si nous avons besoin l'une de l'autre ?»«
Le triple nom de ton triple dieu, Eros Cupido Amor. »
Et les deux jeunes femmes se quittèrent après s'être embrassées pour la seconde fois et s'être serrées la main pour la 20e fois.